tu écoutes Ne Venez Plus, le podcast de la déconstruction.
Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Je suis Gloire Wanieff, romancier et web activiste. Alors, avant de commencer notre débat de ce jour qui va porter sur le féminisme et la religion, je vais d'abord laisser le temps aux personnes qui vont discuter avec moi de se présenter. Alors, j'invite chacun à se présenter, chacune, parce que je suis entouré, je suis avec deux femmes extraordinaires. Donc, chacune va se présenter, dire son nom et puis sa profession ou d'autres informations complémentaires. Voilà.
Bonjour, je suis Béatrice Yao et sur Facebook, je suis Midjeka. Je suis gérante d'une agence de communication web et Z Consulting. Je suis aussi community manager et rédactrice web.
Bonsoir, moi c'est Sissi Aïssata Iman, élève ingénieure en sécurité, environnement, prévention des risques, blogueuse à mes heures perdues, youtubeuse souvent, et voilà, un peu ça, un peu tout, voilà.
Alors, merci Béatrice, merci Iman de votre présence. Je rappelle, le débat de ce jour va porter sur le féminisme et la religion. Voilà. On ne va pas débattre du féminisme à côté et de la religion d'un autre côté. Non, on va débattre des deux. Première question alors. Qu'est-ce que pour vous le féminisme et qu'est-ce que pour vous la religion? D'abord, c'est deux questions là. On va d'abord essayer de nous définir ces termes. Ensuite, on va évoluer.
Alors, pour moi, le féminisme, c'est un courant politique et social qui vise à dénoncer des conditions des femmes déplorables et à lutter pour que ces femmes-là puissent voir leurs conditions améliorées. Alors, partant de cette définition, on note qu'il y a plusieurs féminismes, puisque les femmes à travers le monde font face à des réalités différentes. Et suivant le temps et l'espace, suivant les époques, il y a eu des mouvements féministes pour permettre aux femmes d'avoir des droits de vote. Il y a eu aussi des mouvements féministes pour permettre aux femmes d'être libres de porter au nom des soutiens. Il y a aussi des mouvements féministes qui luttent pour l'abolition des mutilations génitales et plein d'autres causes. Et la religion, je la définis comme une manière d'adorer un être suprême. Et pour ce qui est des religions révélées, l'essentiel des religions révélées, l'adoration de l'être suprême se manifeste à travers la vision d'un prophète et elle est consignée à travers des livres qui sont appelés livres saints. Et on peut citer pour le christianisme la Bible, pour l'islam le Coran et puis les bouddhistes aussi, ils ont les écrits de Nichiren Dachone. Et c'est un peu ça. Et à part ces religions révélées, il y a l'animisme.
Je disais que pour moi, le féminisme, c'est un mouvement qui vise la reconnaissance, la valorisation et la promotion des droits de la femme dans tous les domaines qui existent. Voilà. Et pour moi, la religion, c'est un ensemble de dogmes et de principes qui dictent notre conduite en société, selon les principes, selon la volonté de Dieu. Voilà.
Alors, je vais directement poser la question. Peut-on être féministe et religieuse? Voilà. Allez-y, dites-nous ce que vous pensez de ça. Peut-on être féministe et religieuse? Je fais exprès de ne pas déjà vous demander si vous-même êtes féministe ou vous-même êtes religieuse, parce que déjà, dans vos réponses, certainement, nous pourrons savoir si vous l'êtes ou pas. Donc, c'est la question.
Pour ma part, j'estime qu'on peut être féministe et religieuse. Parce que déjà, voilà, comme tu l'as souligné déjà, parce que pour moi, c'est mon cas. J'estime que les droits que Dieu ne m'a pas privés, voilà, c'est-à-dire l'être qu'on estime être au-dessus de tout, l'être suprême, voilà. Les droits que lui n'a pas, ne m'a pas, voilà, les droits dont il ne m'a pas privé, pourquoi les hommes le feraient en fait, voilà. Donc j'estime que ce sont deux choses qui sont complémentaires, qui peuvent être complémentaires dans la mesure où on sait faire la part des choses. Voilà, j'insiste aussi un peu sur ce truc, faire la part des choses. Ne pas aller soit dans le fanatisme religieux, c'est-à-dire exagérer dans la religion, et ne pas aller aussi dans le fanatisme du féminisme. Voilà, ne pas exagérer dans nos prises de position féministes.
Déjà, bon, je pense que pour être féministe, il faut déjà comprendre quelle est la condition de la femme, quelles sont les injustices auxquelles font face les femmes, et comment nous, à notre niveau, on peut changer les choses. Donc, une personne, homme ou femme, qui a cette démarche, on peut dire qu'elle est féministe. Maintenant, pour ce qui est d'être religieux, c'est-à-dire pratiquer une religion, je pense qu'il y a certains points, suivant la religion qu'on sera en train de pratiquer, qui vont nous interpeller compte tenu de nos convictions féministes. Parce qu'il y a des sourates pour ce qui est de l'islam, il y a des versets pour ce qui est du christianisme qui légitimisent une certaine violence psychologique, une certaine violence financière qu'une femme peut subir si elle ne se met pas sous l'autorité de l'homme qui est son époux, ou de l'homme qui est son maître, ou de l'homme qui est son patron. Donc, par rapport à ces aspects-là, plus je pense tu as un engagement féministe et moins tu seras en train de respecter les doctrines religieuses, vu qu'il y a certains dogmes, certaines indications qui froissent tes convictions féministes, en fait.
Alors, Béatrice, je voudrais un peu revenir sur ce que tu es en train de dire à propos du fait qu'il y a certains versets, certaines sourates qui peuvent aller à l'encontre des convictions féministes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, comme ça, deux, trois exemples de versets ou de sourates qui vont à l'encontre de la pensée féministe?
Ok, pour ce qui est des sourates, je n'ai pas les références exactes, mais il y a une sourate qui dit « Lorsque la femme, elle est mariée, si son mari veut avoir des rapports sexuels avec elle, elle ne doit pas refuser. Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari, les anges vont la maudire durant toute la nuit et cette malédiction-là peut réjaillir sur sa progéniture. Donc, ni l'homme ni la femme ne doit pas se refuser à son mari sous peine de recevoir la malédiction de Allah. Maintenant, une femme qui ne se refuse pas à son mari, une femme qui se dispose son corps à son mari, elle a la bénédiction d'Allah. Donc, je pense que cette sourate-là, elle existe dans le Coran. Et pour ce qui est du christianisme, on a aussi, par exemple, Paul qui dit « La femme n'a pas le droit de tenir une assemblée, n'a pas le droit de prêcher dans une assemblée, parce que si la femme prêche dans une assemblée où il y a des hommes, ça veut dire que ces hommes-là sont sous l'autorité de la femme, alors que ce n'est pas le cas. C'est l'homme qui a l'autorité et la femme est sous l'autorité de l'homme. » Et cette vision vient à l'encontre du féminisme, puisque dans le féminisme, on estime que hommes et femmes sont égaux en droit, en tout. Donc, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre ou il n'y a pas un qui est sous l'autorité de l'autre. Et pour ce qui est de la sourate qui maudit la femme, qui ne va pas avoir de rapport, ça vient aussi contre le féminisme parce que la femme est libre de disposer de son corps. Et obliger une femme, même étant mariée à elle, à avoir des rapports, c'est considéré comme un viol. Et quand c'est entre époux, ça s'appelle le viol conjugal. C'est une violence. Donc déjà, voilà deux aspects qui sous-tendent mon argumentaire.
Pour la suite du débat, déjà, j'aimerais savoir, si possible, voilà, Béatrice, est-ce que Vous êtes chrétienne ou musulmane, voilà, ça c'est déjà ça. Et puis après, disons, bon, après cette réponse, je pourrais poser mes autres questions.
Moi, je suis, comment on appelle ça, je peux me définir aujourd'hui en 2020 comme étant une chamane, voilà, parce que j'ai eu une foi catholique, ensuite j'ai eu une foi évangélique, et après savoir bien lu les livres, la Bible, etc., j'ai trouvé que, à plusieurs égards, si je veux me conformer à ces livres saints, à ces doctrines, je ne serai pas épanouie. Et à plusieurs situations d'injustice que je ne pourrais pas dénoncer valablement parce que Dieu ne m'aura pas envoyé de faire ça, parce qu'il n'est pas écrit que je dois faire ça, parce qu'il est interdit que je dois faire ça. Donc, je me suis démarquée de ces religions et puisque j'ai la foi en Dieu, je ne suis pas athée, j'ai préféré me positionner chamane comme ça. Ça me permet de continuer de croire en Dieu, d'avoir une spiritualité loin de ces religions qui sont en vérité sexistes, misogynes.
D'accord, pas de souci. Moi, ce que je propose pour que le débat soit mieux structuré, qu'on ne parte pas dans un peu tous les sens au niveau des justifications et tout, je préfère qu'on n'utilise pas de références dont on n'a pas, qu'on connaît pas, voilà, textuellement. Par exemple, si on cite un verset du Coran, faudrait avoir, je ne sais pas, faudrait qu'on arrive à citer la preuve textuel. Voilà, c'est-à-dire, si je lis un tel verset, il faudrait que j'arrive à avoir la référence textuelle, de la même manière que dans la Bible. Il faut pas qu'on se base sur nos présomptions ou ce qu'on a entendu en crif pour dire que voilà, dans telle religion et tout. Moi, je pense que ça sera plus objectif. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'on sait, voilà, dans la religion, on peut dire, voilà, de tel savant ou de tel prophète, voilà. Mais si on doit vraiment tirer des preuves palpables des livres saints, autant avoir les preuves textuelles. Voilà.
Ok, d'accord, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est une très bonne base de travail.
Je ne suis pas d'avis parce que la religion, même pour parler de la religion textuellement, citer des versets textuellement, il faut faire des études qui s'appellent la théologie pour avoir une connaissance, une maîtrise parfaite de la Bible. Ou même pour le Coran, il y a des études spéciales pour avoir une maîtrise parfaite des livres coraniques. Maintenant, lorsque vous faites un débat avec une personne, lorsque la personne vous donne un argument et que vous pensez que cet argument est faux, c'est à vous qu'il appartient d'apporter la preuve que cet argument est faux. C'est à vous qu'il appartient de faire ressortir. Alors, l'élément que j'ai mentionné, c'est bien une sourate parce que j'ai vu dans les échanges des musulmans, j'ai vu des échanges. Alors, si vous, à votre niveau, vous n'avez pas connaissance de cette sourate, vous faites la recherche pour savoir est-ce que cette sourate existe ou est-ce qu'il y a une autre sourate qui la contredit. Voilà. Et même quand je parle de la Bible, l'exemple que j'ai donné, je ne suis pas obligée d'avoir les références exactes et strictes de la Bible, mais si vous pensez que ces éléments ne font pas partie de la Bible, c'est à vous qu'il appartient d'apporter la preuve du contraire. C'est ça, en fait, la base d'un débat, que ce soit en justice ou que ce soit partout ailleurs. L'apport de la preuve appartient à la partie accusatrice. Donc, je vais donner ces éléments pour éclairer. Maintenant, si vous pensez que ces éléments sont faux, ils ne sont pas vrais, vous devez apporter la preuve du contraire. Mais vous n'avez pas le droit de m'interdire de mentionner des passages de livres saints alors qu'on fait un débat sur la religion. Alors, concernant la sourate en question, le texte en question, c'est dans un hadith. Et là, ici, je vous envoie la capture pour que vous voyez l'hadith en question.
Je suis désolée, mais pas besoin. Voilà, pas besoin d'avoir fait des cours de théologie pour connaître des versets qui se reflètent à telle ou telle, voilà quoi, je sais pas, telle ou telle pratique dans la religion. Quand on dit généralement qu'on pratique une religion ou qu'on connaît une religion, ou quand on a à même de discuter d'un sujet à propos d'une religion, on est capable de pouvoir retracer les preuves. Voilà, de pouvoir prendre les preuves textuelles en fonction du contexte dans lequel ils sont énoncés. Parce que dans les versets, les sourates, les psaumes ou tout ça, c'est vraiment dans un contexte et dans une logique que chaque chose est écrite. Il ne faut pas prendre, je sais pas, quelque chose hors de son contexte et l'exposer selon notre manière de voir les choses, selon notre propre rétroscription. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et comme je dis, en matière de religion, en islam, on dit, on ne parle pas sans preuve, on ne parle pas sans science. Donc, quand tu t'avances dans un sujet dont tu ne maîtrises pas tous les contours, dont tu n'as pas vraiment le bagage nécessaire pour argumenter en ta faveur, on ne parle pas. Donc, c'est pour ça que je dis, il est préférable d'éviter, voilà, de citer quelque chose dont on n'a pas pleinement connaissance. Voilà, c'est préférable pour chacun de nous pour ne pas avoir à tergiverser, à se retrouver face à des incompréhensions de l'autre. Et voilà quoi. Pour avoir une certaine logique dans nos arguments.
Bon, en tant que modérateur, j'ai entendu tout ce que vous avez eu à dire. Alors je vais modérer simplement en disant que d'abord, c'est un débat non seulement d'arguments et tout, mais c'est aussi un débat par rapport à nos différents ressentis. Voilà, quelque chose qu'on a vu, qu'on a compris d'une certaine manière. Et si il y a eu erreur dans le truc, il convient de éclaircir la personne. Par exemple, si Béatrice a donné un verset qui était peut-être un hadith et qu'elle a mal dit, tout ça, là, il conviendrait, Imane, de corriger, en fait, d'essayer de corriger, en fait. Simplement, quoi. Comme ça, on va pouvoir avancer dans le débat. Donc, voilà, j'ai dit que si on n'a pas la référence de quelque chose, on le dit en précisant qu'on n'a pas la référence. Ce serait mieux comme ça de dire que voilà, je n'ai pas la référence, est-ce que je peux avoir un éclaircissement par rapport à ça? On essaie tous de mieux se comprendre, en fait, plutôt que de tergiverser, voilà, s'il nous plaît. Ça ne concerne pas que nous, mais il y a aussi ceux qui vont nous entendre et qui certainement vont apprendre des choses. Donc, on va essayer de faire cet effort-là. Maintenant, nous allons revenir dans le débat.
En tout cas, moi, je suis d'avis avec ce que vous avez dit et je pense que c'est un débat. Donc, tel que je me suis exprimée, si mon interlocutrice, elle estime que je n'ai pas la science infuse, elle n'a pas le droit de me dire, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Non, elle doit m'apporter la lumière. Donc, l'élément que moi, j'ai mentionné, je considérais que c'était une sourate. Et lorsqu'elle m'a interpellée, et j'ai fait les recherches, je lui ai ressorti, elle m'a dit non, ça c'est pas une sourate, c'est un hadith. Alors elle pourrait rebondir dessus pour nous éclairer, pour nous dire ah, voici la différence entre un hadith, voici la différence entre une sourate. Parce qu'il y a des femmes musulmanes que je connais, sur la base de cet élément-là, on les a obligées à accepter des situations de violence conjugale qu'elles subissent. Donc ce n'est pas un hasard si je l'ai mentionné. Donc à son niveau, par rapport à ce que je dis, si elle a des lumières à m'apporter, elle m'apporte ses lumières. Mais il faut que la personne puisse parler pour qu'elle puisse soit montrer ce qu'elle sait ou alors qu'on puisse lui apporter un plus. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, ne t'exprime pas, tu n'es pas habilité à t'exprimer, non. Je m'exprime sur la religion, c'est le thème. Et par rapport à ce que je dirais, si il y a une chose qui est courte, il faut allonger, vous allez l'allonger. C'est une chose qui est longue, qu'il faut raccourcir, vous allez la raccourcir. Donc, c'était un peu ça le contexte et c'était ce qui a motivé cet élément. Donc, si ce n'est pas une sourate, que c'est un hadith, mais c'est utilisé dans les oreilles des femmes musulmanes qui subissent des violences conjugales de la part de leur mari pour qu'elles puissent accepter cette situation. Donc, elle peut faire aussi la lumière pour nous montrer qu'est-ce qu'une sourate, qu'est-ce qu'un hadith et sur quoi une femme musulmane peut se baser pour respecter ou ne pas respecter ce genre de paroles qu'elle reçoit du fait de sa religion. Merci.
Je suis désolée, je répète encore, je n'ai nullement mentionné ou nullement dit quelque part que vous n'étiez pas habilité à vous exprimer ou habilité à parler ou à donner votre point de vue. Voilà. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est je me suis juste appuyée sur les preuves. Voilà. Parce que pour moi, un argument s'appuie par des preuves. Et lorsqu'on apporte des preuves, faudrait qu'on soit à même sûr de la fiabilité de notre source et qu'on connaisse, je veux dire un peu, voilà, on est sûr en fait de la preuve qu'on apporte. Parce que dans un débat, on essaie de déjà d'édifier l'autre, lui apprendre plus, éclairer sa lanterne et tout, voilà, avec nos preuves, de sorte à ce que cela puisse être vérifiable par tous. Voilà. Juste être clair là-dessus. Et comme vous souhaitez que je vous fasse un peu la précision, donc je vais vous dire le Coran, le Coran, voilà, c'est la parole de Dieu, la parole d'Allah. Et tout ce qui est dans le Coran n'est c'est Allah, voilà. Point, c'est Allah qui l'a dit. Les hadiths sont c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui et sa famille, c'est tout ce que lui il a fait de son vivant comme pratique religieuse en s'appuyant sur le Coran, c'est-à-dire il a appris le Coran, il a enseigné et de cette même manière ce qu'il a appliqué on appelle hadith. Tout ce que les gens de son époque ont retranscrit, ont retranscrit, ont retranscrit jusqu'à notre époque, des savants ainsi de suite qui se sont succédés dans l'apprentissage de la religion, et ont vu ce qu'il a fait, ont entendu ses enseignements, ses paroles et tout, ont retranscrit et ont gardé ça. C'est ce qu'on appelle hadith. Et il y a une autre source de législation qui est le consensus des savants, c'est-à-dire les savants. En s'appuyant sur le Coran et sur les hadiths, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, c'est-à-dire toutes ses traditions, tout ce qu'il a fait et tout, en s'appuyant sur ça, ils établissent voilà, des jugements. Ces jugements s'appliquent la plupart du temps par rapport à ce qu'on vit actuellement. Voilà, c'est-à-dire que en traduisant, transposant un peu ce qui s'est passé il y a 1400 ans, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui est similaire par rapport à telle telle situation, on juge sur les affaires présentes. Voilà. Par exemple, si on se pose des questions, je ne sais pas, sur les avions, sur les voyages en avion, je ne sais pas, par rapport au... Bref, un peu ce genre de choses, on peut se référer au consensus des savants qui vont nous orienter vers les preuves. Vers les preuves qu'on doit chercher, c'est-à-dire où on doit se référencer, si on doit se référencer au Coran, dans telle sourate, tel verset, si on doit se référer au hadith, voilà. Je suis humble, voilà, et mon humilité ne m'autorise pas à parler de ce dont je n'ai pas parfaitement la connaissance, voilà. Donc, pour être capable d'interpréter dans les moindres détails les hadiths et voilà, et tout, faudrait avoir... appris beaucoup. Voilà, faudrait avoir appris beaucoup. Et moi, je ne suis pas encore à ce stade. Donc, je ne pourrais pas vous en donner beaucoup, beaucoup d'explications. Ce que je sais de la religion, de ce que j'ai appris, la femme est le garant du foyer, de la stabilité de son foyer. Et elle fait en sorte que les relations entre elle et son époux soit harmonieuse. De la même manière que l'époux veille à ce que les relations entre lui et son épouse soient également harmonieuses. Les deux travaillent à ce que tout se passe bien. Voilà, cela en va de leur équilibre personnel et de l'équilibre de la famille en général. Quand on dit que la femme ne doit pas se refuser à son mari, s'il dort sous la colère, voilà, etc., il faudrait comprendre plus le fait que elle devrait être capable d'expliquer, d'exprimer ses choix, d'exprimer ses, comment dirais-je, d'exprimer, voilà, son refus et de faire comprendre ça à son mari. Voilà, de façon, comment je dirais, de façon paisible. Je ne sais pas comment mais de sorte à ce que il y ait toujours l'harmonie qui n'y ait pas de mésentente. Voilà. Que les deux ne se couchent pas en étant en discorde, en étant en palabre, pour ce genre de choses. Faudrait que, peu importe ce qui arrive, que chacun veille à ce qu'il n'y ait pas de mésentente ou de discorde. Voilà.
Alors, je vais vous mettre ici, la sourate 4, verset 34, qui mentionne un élément qui fait référence à la possibilité pour les hommes de frapper leurs femmes. Donc, je pense que puisqu'on était on va dire, en divergence par rapport à l'hadith que j'ai mentionné, en le mentionnant comme une sourate, là, je viens de trouver une sourate. Et je vais mettre la capture et ça va me permettre de pouvoir lire la sourate en entier. Et on pourra voir aussi une sourate qui est claire et qui montre un peu un cas de violence qui est légitimisé. Merci. Alors, dans la sourate 4, verset 34, il est écrit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. » Donc, dans ce que j'avais listé comme exemple déplorable qui est en porte-à-faux du féminisme, j'avais dit que c'était une sourate. On a vu grâce à Mississé que c'était un hadith. Mais là, je viens de vous citer une sourate qui, dans l'un de ses versets, qui est la sourate 4, verset 34, mentionne l'autorité de l'homme sur la femme, mentionne l'obéissance que la femme doit à son mari, mentionne la possibilité pour le mari de frapper la femme désobéissante et de chercher toutes les voies contre elle jusqu'à ce qu'elle obéisse à sa volonté, qui est la volonté de Allah. Donc, est-ce que j'ai bien mentionné la sourate? Est-ce que cette sourate-là, elle est effectivement dans le Coran, sourate 4, verset 34? Et est-ce que l'interprétation que je fais de cette sourate est conforme à ce qui est dit? Merci.
Oui, effectivement, j'ai moi aussi fait la recherche et j'ai trouvé cette sourate 4, verset 34. Nous allons voir un peu ce qui va être dit. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud.
En islam, on dit le meilleur des hommes est celui qui est meilleur. C'est le meilleur avec sa femme. Voilà. Le meilleur donc les hommes, c'est celui qui a le meilleur des comportements avec sa femme. Quand on dit s'il y a dans ce verset, il s'agit de religion. Il faudrait savoir que quand dans ce verset, voilà, il s'agit de religion. Si la femme, elle est désobéissante dans le sens de la religion, c'est-à-dire qu'elle ne prie pas, qu'elle néglige tout ce qui est obligation religieuse. Voilà, c'est dans ce principe-là. Et quand on dit frappez-les, éloignez-vous d'elles, c'est-à-dire montrez-leur leur mécontentement. C'est de montrer le mécontentement à ta femme de sorte à ce qu'elle comprenne que tu n'es pas d'accord, voilà, avec ses agissements. Tu n'es pas d'accord avec sa façon de faire parce qu'elle désobéit à Dieu, dans le sens, comme je répète encore, dans le sens de la religion. Voilà, qu'elle n'accomplit pas ses obligations religieuses conformément à ce qui est dit. Du coup, on lui exprime son mécontentement. Voilà. Après, dans ce qui est frappé, pour frapper, il est dit utiliser leur voile. Voilà, utiliser leur voile. Ça, c'est vraiment en dernier recours. C'est-à-dire que, je sais pas, mais c'est vraiment l'extrême quoi. L'extrême. Tout passe par la parole. C'est-à-dire, on commence déjà par l'exhortation. L'exhortation, c'est-à-dire aller patiemment vers son épouse, essayer de lui faire comprendre pourquoi elle doit accomplir ses préceptes, ses devoirs religieux comme il se doit. Pourquoi elle doit suivre ses prières, pourquoi elle doit ci, pourquoi elle doit ça. Refaire en fait, en gros, cette éducation-là avec sa femme. Lui faire comprendre tout ça. Lui montrer son mécontentement si elle persiste, c'est-à-dire tu lui montres que tu as fait preuve de patience, voilà, tu lui as parlé, je ne sais pas, 10, 15, 20, 30, 45 fois, elle semble ne pas comprendre, donc du coup, tu lui montres ton mécontentement en t'éloignant d'elle, en prenant tes distances, en lui montrant vraiment que tu es fâché, comme quand nos parents nous font, voilà, tu montres que tu es fâché et tout, que tu n'as pas apprécié son comportement. Et pour frapper, dans ce qui est du Coran, il faut savoir qu'on n'applique pas les versets terre à terre. Voilà. On n'applique pas les versets terre à terre. Parce que si c'est ce que on doit faire, c'est en gros, hein, c'est ce que les terroristes pensent qu'ils font également, appliquer les versets comme il se doit. Mais ils ne le font pas. Voilà, parce qu'ils ont leur propre interprétation. L'application de la religion se trouve auprès de l'interprétation. Et dans l'interprétation, il est dit que c'est vraiment, comme je l'ai retracé plus haut, c'est vraiment tout ce qui est désobéissance religieuse. Et après, ce qu'il en suit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle en termes de religion, qui est celui-même qui a le comportement qui a vraiment montré en griffe hein, ce qu'on doit faire et tout, comment appliquer notre religion, il n'a jamais frappé ses femmes. Il n'a jamais encouragé quelqu'un à frapper sa femme. Il a toujours encouragé les hommes à être les meilleurs avec leurs épouses, même quand celles-ci étaient difficiles et tout, ou qui rencontraient des problèmes avec elles. Il a toujours, toujours encouragé les gens à faire preuve, voilà, de patience envers leur épouse. J'aimerais aussi souligner, bah, juste mon interprétation. J'espère que c'est pas, ça sera pas une occasion pour fustiger en griffe l'islam, parce que voilà, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des griefs contre cette religion, parce qu'on suppose que elle est misogyne, elle est un peu en griffe barbare, elle promouvoit la violence contre les femmes et bon, plein plein d'autres choses dans ce sens. Du coup, j'espère que toute la suite du débat, ça ne sera pas vraiment pour jeter aux orties la religion, quoi, islamique.
Alors, Iman, je ne vais pas revenir sur ce que disent ces différents versets-là. Moi, maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les versets, quelles sont les sourates, quels sont les éléments religieux qui te permettent de soutenir ta pensée féministe. Voilà. Existe-t-il dans ta religion des éléments qui te laissent penser que le féminisme que auquel tu adhères à sa part de à sa comment dire ça à sa part en fait à son importance à son utilité à sa raison d'être dans ta vie à toi féministe dans ta vie à toi musulmane voilà j'espère que ma question était claire hein.
La sourate 2, voilà, celle que je peux dire que j'ai lue en entier. La sourate 2, cette sourate qui parle principalement des règles qui régissent le mariage, la dot, également l'héritage. Je peux dire que c'est quelque chose qui m'a un peu marquée, parce que j'ai compris en fait que les gens ont souvent une mauvaise interprétation de la religion et qui nous porte nous-mêmes préjudice et qui fait en sorte que on a une mauvaise image voilà de Dieu en griffe malheureusement en pensant que Dieu a privilégié sur cette terre-là des personnes par rapport à nous voilà a préféré les hommes par rapport à nous. Il y a également le verset je vais vous envoyer la référence tout de suite. Le verset qui a été révélé lorsqu'une femme est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que depuis que le Coran a été révélé par Allah, elle a remarqué que tous les versets ne s'adressent qu'aux hommes. On parle des croyants, on dit les hommes, les hommes, les hommes, et elle ne voit pas des femmes. Qu'elle a l'impression que la religion ne s'adresse qu'aux hommes. Et ce verset-là a été révélé pour prouver au fait aux femmes, qu'elles ont autant d'importance que les hommes dans l'islam et même beaucoup plus. Voilà, et même beaucoup plus. Ce qui m'a. Je veux dire, c'est le verset préféré que. C'est l'un de mes versets préférés parce que j'ai compris en fait l'importance que Dieu même m'a donnée en religion. Cette importance-là, cette valeur-là qu'il m'a donnée et que les hommes sur cette terre ont du mal à me reconnaître. Voilà. Du coup, pour ajouter encore, pour étayer les prises de position féministes, c'est que malheureusement, beaucoup de choses sont amputées à l'islam, voilà, dans les actes. Beaucoup de choses sont amputées à l'islam, que ce soit l'excision, le mariage forcé et plein d'autres choses dans le genre, qui sont amputées à l'islam. Et moi, ça me brise un peu le cœur quelque part, alors que les gens utilisent des mauvaises interprétations pour justifier leurs actes. Voilà. Utilisent des mauvaises interprétations pour justifier leurs actes qui sont inadmissibles. Voilà. Du coup, c'est un peu ça. Hein. Voilà, si je peux le dire ainsi, c'est un peu ça. L'apprentissage de certaines doctrines sur la gestion du foyer, l'éducation de la femme et plein d'autres choses dans le genre.
Oui, alors Béatrice, as-tu quelque chose à ajouter par rapport aux éléments que Iman nous a présentés?
D'accord, j'ai bien vu les éléments que Iman m'a présentés et ce que je peux dire, c'est que c'est en fait tout ça le paradoxe de tous les livres saints. Voilà. Et dans le même Coran qui est dans une sourate en train de parler de la grâce des croyants d'être avec Allah qui va les protéger de Satan, du tout et tout. Et là, ça s'adresse à tous les croyants. On a en même temps dans le même Coran la sourate 4 qui place l'homme qui a l'autorité sur la femme. Et ça, ce n'est pas le féminisme. Parce que quelqu'un qui a l'autorité sur toi, ça veut dire que tu n'as pas ton mot à dire. Donc, je pense qu'il y a des thèmes clairs en français qui peut-être peuvent souffrir de certaines interprétations, mais qui ont leur sens propre, qui n'est pas l'égalité. Voilà, l'autorité, ce n'est pas l'égalité. L'homme qui a l'autorité sur la femme. Et peut-être d'autres peuvent interpréter pour dire non. Il va juste l'encadrer pour qu'elle puisse bien prier. Il va pas la frapper. On a écrit frapper, mais c'est pas la frapper. Il va la taper avec un voile. Mais tout ça, c'est des interprétations. Vous voyez. Et à côté de ça, il n'y a pas vraiment dit ce rapport d'égalité-là qu'on trouve dans le féminisme. Il n'y a pas ça en islam, puisque c'est clair. La femme est sous l'autorité de l'homme. Donc, et puis, l'homme agit envers elle comme si elle était son enfant. Donc, il faut qu'il lui montre comment elle doit prier. Il faut qu'il lui rappelle qu'elle n'a pas prié. C'est un problème si elle désobéit à Allah. Et donc, lui, l'homme, quand il a un souci avec Allah, il s'adresse directement à Allah. Maintenant, la femme, si elle a un souci par rapport à sa manière de prier, c'est l'homme qui est sous son autorité. Donc, la femme, dans la religion musulmane, elle a deux personnes sous son autorité. Elle a l'homme qui est au-dessus d'elle et ensuite, elle a Allah. Et l'homme, lui, il est directement lié à Allah. Donc, c'est pas l'égalité, c'est pas le féminisme, c'est pas le droit, c'est le patriarcat, c'est tout ce concept-là qui infantilise la femme et qui donne le droit à l'homme d'exercer des violences sur elle. Donc, il peut être un homme bon, il va la taper avec un voile. Comme il peut être un homme cruel, il va la taper avec une ceinture. Parce que c'est écrit frapper. Même on prend les autres versions de la sourate 4, verset 34, c'est écrit corriger. Donc, les interprétations que les gens font, ils les font selon leur sensibilité. Mais le livre en lui-même est clair. Voilà. Donc, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, on trouvera plusieurs versets comme ça, qui légitimeront des rapports de patriarcat, qui légitimeront l'autorité de l'homme sur la femme et qui justifieront la sanction qu'il décide de lui infliger. Et pour ça, moi, je suis désolée, je ne peux pas adhérer à ces religions. C'est comme si je dis, il y a par exemple Christmas qui est là, Christmas, je le connais, il est bien, il est gentil, depuis 2020, il n'a jamais fait du mal. Mais en juin, Christmas viole un enfant. Donc, je ne peux pas regarder tout ce que Christmas a fait et dire qu'il est bon alors qu'il a violé un enfant. Donc, c'est la même chose avec les religions. Il y a plusieurs pages qui sont belles, qui sont merveilleuses, qui sont fantastiques, mais il y a des pages qui sont horribles, atroces. Donc, comment on se positionne? On ne va pas passer le temps à interpréter alors qu'il y a ces pages qui sont là. Et puis, elles ne sont pas retirées. Elles pouvaient être retirées, elles pouvaient être révisitées. La Bible, par exemple, elle est révisitée. Souvent, il y a des synodes, il y a des évêques qui essaient de revisiter. Mais le Coran, jusqu'ici, n'est pas révisité. On n'a pas révisité pour dire, OK, voilà le nouveau Coran. On a traduit, c'est clair, vous ne pouvez pas interpréter. Vous voyez un peu.
Faut pas confondre les choses. Franchement, Nos parents ont autorité sur nous, ce n'est pas pour autant que ça veut dire que à la maison, on est des esclaves, quoi. Voilà. Moi, je pense que souvent, il ne faut pas faire preuve, André, excusez-moi du terme, faut pas faire preuve de mauvaise foi. Faut pas faire preuve de mauvaise foi. Parce que si on veut s'arrêter pour dire que voilà. Le courant qui dit faut pas faire ci, c'est lui qui dit de faire ça. Faut pas faire ci, faut lui dire de faire ça. Bon, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme si on légitimait en griffe le comportement des extrémistes en religion, des djihadistes, dire que parce que dans le Coran parle des mécréants, on parle du châtiment que recevront les mécréants, donc il est légitime pour eux, c'est tout à fait normal hein, que si ils se mettent à les tuer n'importe comment, voilà, c'est justifié, voilà.
Ça commence à devenir chaud. Pour éviter de trop fatiguer vos oreilles, nous allons rester là pour aujourd'hui. La suite, le week-end prochain. Ciao, ciao.